Bonsoir.
Je suis heureux de vous accueillir pour la troisième conférence du cycle de conférences organisées par l'ISM cette année sur Afrique, sociétés en mouvement. La conférence d'aujourd'hui sera une conférence à deux voix et portera donc sur un nouveau regard sur l'esclavage. Nous avons le plaisir d'accueillir deux spécialistes. Anaïs Vion d'abord. Enfin, deux chercheurs de l'IMAF, de l'Institut des mondes africains, Anaïs Vion, donc, qui est spécialiste de l'Éthiopie médiévale et moderne, et qui a soutenu sa thèse en 2003, qui a été recrutée en 2007 au CNRS, qui, entre 2012 et 2015, a rejoint le Centre français d'études éthiopiennes à Addis Abeba, et qui, depuis, est revenu à l'IMAF. Anaïs Vion s'intéresse particulièrement à l'histoire foncière du royaume chrétien d'Éthiopie et depuis quelque temps, elle s'intéresse aussi à la diplomatique éthiopienne et au rôle économique et politique des institutions chrétiennes. Outre cet aspect historique du travail de recherche d'Anaïs Vion, elle développe aujourd'hui des outils d'édition, d'indexation et de visualisation des textes manuscrits, ce qui relève des humanités numériques, pour produire, à partir de leur publication électronique, des analyses statistiques, lexicales ou géographiques. Et elle a reçu la médaille de bronze du CNRS en 2015. Puis, nous écouterons Henri Médard, qui est professeur d'histoire de l'Afrique contemporaine, donc la période qui suit, à l'Université d'Aix-Marseille. Henri Médard, donc, comme je l'ai dit, rattaché aussi à l'Institut des mondes africains. Il est spécialiste de l'histoire de l'Afrique des Grands Lacs et en particulier de l'Ouganda. Il a publié sur l'Ouganda un ouvrage qui s'appelle « Du royaume du Bouganda au XIXe siècle, mutation politique et religieuse d'un grand État d'Afrique de l'Est », à Karthala en 2007, et un ouvrage en co-écrit avec Shane Doyle, Slavery in the Great Lakes Region of East Africa, paru en 2007 également. Et aujourd'hui, ses recherches portent sur l'histoire de l'esclavage, sur le foncier et sur la violence, en particulier sur les exécutions au Bouganda depuis le XVIIe siècle. Il a dirigé notamment un ouvrage collectif sur la question traite et esclavage en Afrique orientale et dans l'océan Indien, qui a été publié là aussi chez Cartala en 2013. Donc je laisse la parole en ordre chronologique à Anaïs Vion d'abord et puis à Henri Médard. Merci.
Merci pour cette invitation à parler de l'esclavage. Ce n'est pas vraiment un nouveau regard sur l'esclavage dans l'Éthiopie chrétienne que je vais vous proposer, vu que je ne suis en aucun cas une spécialiste de cette question. Je suis historienne, je travaille, comme l'a dit Pascal Hurési, sur des questions liées au foncier et à la structuration des pouvoirs par rapport à l'accès à la terre. Et c'est dans ce cadre-là que je voudrais parvenir à comprendre des questions assez fines qui ont trait au travail contraint, au travail servile. Mais dans le cadre de cette conférence, je vais plutôt reprendre des données qui ont été publiées très récemment et mettre ça à plat pour proposer un état des lieux de où on en est aujourd'hui sur la question de l'esclavage dans l'Éthiopie médiévale et moderne, c'est-à-dire entre le 15e et la fin du 18e siècle. Alors j'avais envie de commencer ma communication par cette image, un bas-relief égyptien qui est conservé au musée archéologique de Bologne à cause de la charge émotionnelle dont elle est empreinte, à cause de sa lisibilité aussi. On voit tout de suite de quoi il s'agit. On voit très bien des esclaves presque nus, assis sous la houlette des scribes égyptiens en train de les compter. Et évidemment, le parallèle on a envie de faire un parallèle avec les images qui ont ému très récemment le monde entier des esclaves est-africains vendus en Libye. Alors peut-être ai-je envie de me dédouaner d'aborder un sujet aussi sensible et aussi qui traite de ce qui est pour nous de l'inhumanité la plus avérée aujourd'hui, de ce qui est inacceptable, surtout quand ça passe par des images, ce qui est. Je ne vais pas m'étendre sur la révélation du trafic d'êtres humains en Libye aujourd'hui, qui est quelque chose qui, me semble-t-il, était quand même connu depuis quelques années. Voilà, me dédouaner de vous faire une présentation sèche sur quelque chose qui concerne le trafic d'êtres humains et donc qui forcément a trait avec la violence, l'injustice et la privation de liberté. Cette image aussi, pour rentrer dans le sujet, et dire que l'est de l'Afrique, la corne de l'Afrique, est à la fois un réservoir et un pourvoyeur d'esclaves depuis des siècles et des millénaires, et que je vais travailler sur la période du 15e au 18e, sur laquelle il y a des choses qui changent, mais c'est une des constantes de la richesse et donc de la structuration des sociétés de la corne de l'Afrique. Alors, je n'aurais pas d'image aussi émouvante et lisible que ce bas-relief égyptien pour vous présenter l'esclavage en Éthiopie, parce qu'il y a peu de sources, très peu de sources iconographiques. Là, c'est quasiment une des seules représentation immédiatement lisible d'une reine accompagnée de son esclave. C'est un manuscrit du XVIIe siècle. Et il y a peu de sources écrites aussi. Il y en a quelques-unes. Peut-être que de temps en temps, ma présentation aura l'air un petit peu pointilliste, parce que voilà, on dispose de peu de sources et on fait un petit peu feu de tout bois pour essayer de comprendre ce phénomène de l'esclavage. L'esclavage en Éthiopie reste encore, malgré des efforts récents, un angle mort des études sur l'esclavage, notamment en Afrique, pour plusieurs raisons. Je vais essayer de vous présenter cette question sous trois angles. D'abord, la question de la traite et du commerce au long cours, qui est très certainement l'angle qui a été le moins mal étudié jusqu'à maintenant, même si le parti pris christiano-centré des études éthiopiennes a longtemps été aveugle au fait que les chrétiens étaient aussi des marchands d'esclaves. Mais vous allez voir pendant ma présentation qu'on ne peut aujourd'hui plus du tout nier ou passer sous silence le fait que les chrétiens étaient complètement acteurs de ce commerce. Ensuite, on essaiera d'aborder l'esclavage domestique et l'esclavage royal. Et ensuite, beaucoup plus rapidement, la question des frontières entre le travail servile et le travail contraint. Donc, je vais baisser la focale petit à petit. Alors, sur cette carte, vous pouvez voir, vous pouvez bien voir l'Éthiopie dans ses frontières actuelles. Donc, évidemment, pas du tout représentative des frontières médiévales et modernes. Et j'ai, de façon très grossière et volontairement, dessiné quatre espaces. En rouge, l'espace qui est sous le contrôle du royaume chrétien, avec la région Amara, qui est le cœur de ce royaume à partir du XIIIe siècle. En bleu, l'espace qui est sous le contrôle direct des sultanats musulmans, et particulièrement du sultanat de l'Adal, qui devient extrêmement puissant au XVIe siècle. En jaune, orangé, des royaumes païens, ou en tout cas non, qui ne sont ni chrétiens ni musulmans, dont j'ai donné les noms des trois plus importants, le Damot, l'Enaria et le Gamo, qui sont des royaumes pourvoyeurs d'esclaves. On rentrera dans les détails ensuite. Et en vert, en pointillé, une population de pasteurs, les Oromo, qui, à la faveur d'une guerre de djihad menée par le sultanat d'Adal contre le royaume chrétien au XVIe siècle, va prendre sa place dans les équilibres géopolitiques de l'Éthiopie et va aussi rentrer dans la razzia et le commerce des esclaves. À la rencontre de ces espaces géopolitiques, que voit-on? On voit un des plus grands marchés, et donc les deux flèches noires, quand même que je précise. Les deux flèches noires sont les deux grands axes du commerce, de l'exportation des produits de luxe hors de l'Éthiopie, qui sont donc les esclaves en premier titre, mais aussi l'or, le musc, l'encens, l'ivoire. À l'endroit où se rencontrent ces différentes forces chrétiennes, musulmanes, païennes et ensuite oromo, se trouvent les marchés où les caravanes, les endroits de rupture de charge, les marchés où les caravanes s'approvisionnent dans ces produits de luxe. Les guerres et les querelles, les luttes entre ces différents acteurs du politique dans la Corne de l'Afrique ont eu en grande partie pour cause le contrôle de ces routes de commerce. Il y eut, alors, donc là, j'ai mis sur la carte deux ports principaux, Massawa au nord, Zeila au sud, qui sont les ports de sortie de ces biens de luxe vers le Yémen, l'Inde, l'Égypte, le Proche-Orient. Et ces ports sont contrôlés par les musulmans. Les chrétiens ont une seule fois, en tout cas ce n'est documenté qu'une seule fois, au début du XVIe siècle, tenté d'outrepasser ce contrôle des ports par les musulmans pour traiter directement avec le Yémen, mais ce fut un échec. Qui dit commerce dit nécessité de légiférer. Au sein du royaume chrétien, quelles sont les lois qui régulent ce commerce? Alors il y a un corpus très conséquent qui s'appelle la législation des rois, en guèze le Fetanegast, qui est une traduction d'une compilation copte arabe établie au XIIIe siècle en Égypte et qui reprend des éléments de droit byzantin mais aussi de droit malikite, donc qui était en usage au XIIIe siècle en Égypte. Et ce corpus égyptien va être traduit en guèze, donc la langue écrite des chrétiens d'Éthiopie, et arrive en Éthiopie, la date est pas encore établie, mais 15e siècle, 16e siècle, et il a longtemps été dit que ce Fetanegast était trop étranger à la législation, la jurisprudence et les traditions juridiques éthiopiennes pour avoir été appliqué. Un article récent, j'ai mis la bibliographie en fin de ma présentation, d'un collègue éthiopien travaillant aux États-Unis, Abtamou Mengiste, montre que le Fetanegast, en tout cas pour ce qui concerne la législation relative aux esclaves, était sûrement connu et même appliqué en Éthiopie dès le XVIe siècle. En effet, on connaît donc ce chercheur, Abtamou Mengiste, a découvert un édit d'un souverain éthiopien, Galaodéos, qui règne au milieu du XVIe siècle et qui prohibe la vente de chrétiens nés libres, ce qui est contenu dans le Fetanegast. Alors, ce texte est passionnant à plusieurs titres, notamment parce que c'est le seul édit royal pré-moderne que nous connaissions. Alors, j'en ai fait une version la plus accessible possible de la première partie. Il est en trois parties, et là, c'est la première partie. Ça commence par une invocation à la Trinité. Moi, le roi Galaodéos, j'ai ordonné qu'à partir de maintenant, un marchand, qu'il soit musulman ou chrétien, ne peut se rendre à la mer, à Adal, donc le sultanat musulman, ou sur les marchés, sans se présenter à moi. Qu'il présente les esclaves, hommes et femmes, devant moi, qu'il écrive les noms de ses esclaves et les déclare aux dignitaires des régions qu'il traverse. Si un esclave qui n'est pas sur la liste est découvert par les dignitaires, ce marchand sera placé en détention. Si l'esclave est chrétien et ce marchand est arabe, que sa marchandise, au marchand arabe, soit confisquée et qu'il soit envoyé à moi. Que le vendeur qui a mis sur le marché et vendu un chrétien soit mis à mort. Si celui-ci est un éthiopien, chrétien ou musulman, qu'il soit mis à mort. Si c'est un arabe, que sa marchandise soit confisquée. Tout fonctionnaire qui n'obéit pas à ses ordres mérite d'être tué sans pitié et ses biens confisqués, et qu'il soit maudit par le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Moi, le roi Galaodéos, je promulgue cette loi, qu'elle soit établie comme loi et règlement du pays d'Éthiopie pour toujours. La deuxième partie est une longue anathème, Et la troisième partie est une forme de décret d'application concernant les esclaves qui proviennent du Gamot, du Damot et du Gamo, et qui explique à nouveau, dans d'autres termes et de façon encore plus claire, ce processus très particulier, disant que les vendeurs qui viennent du Damot et du Gamo doivent établir une liste avec le nom du premier vendeur, le nombre d'esclaves, le prix auquel les esclaves ont été acquis, et il doit témoigner de leur région d'origine. En fait, leur région d'origine, c'est un équivalent au fait qu'ils ne sont pas chrétiens. Et qui réexplique que toute personne désobéissant à cette interdiction de vendre des chrétiens sera mise à mort, sauf s'il n'est pas éthiopien, c'est-à-dire s'il est arabe, auquel cas le roi ne s'autorise quand même pas à tuer un commerçant arabe sur la terre éthiopienne, mais il confisque sa marchandise et le place en détention. Ce qui est très intéressant dans il y a beaucoup de choses très intéressantes dans cet édit, mais notamment c'est qu'il confirme de façon évidente que chrétiens et musulmans se partagent ce commerce excessivement lucratif des esclaves sur les routes de la traite en Éthiopie. Alors comment sait-on que un esclave est chrétien ? Puisque dans le décret d'application, c'est moi qui l'appelle décret d'application, il est précisé que si un esclave du Damot ou du Gamo meurt, il est hors de question que le marchand qui donc forcément perd un bien le remplace subrepticement par un esclave chrétien, et que une telle supercherie ne peut avoir lieu et sera punie. Au XVe siècle, donc un siècle avant, un roi éthiopien avait ordonné que ses sujets chrétiens se portent sur leur corps par un tatouage ou par une scarification la marque de leur appartenance au christianisme. Donc là, j'ai pris des photos contemporaines, bien entendu, où on voit un homme et une femme qui sont la femme tatouée et l'homme scarifié d'une croix sur le front. De plus, les chrétiens d'Éthiopie, depuis au moins le XVe siècle, on le sait, portent autour du cou un cordon, qui est leur cordon de baptême, auquel ils peuvent attacher une croix s'ils ont les moyens de porter une croix. On voit cette jeune femme sur l'image qui porte ce cordon avec une croix. Donc, il est possible que cette demande que les chrétiens portent dans leur corps, sur leur chair, la marque de leur appartenance au christianisme, et aussi pour but de leur éviter d'être vendus comme esclaves. On a aussi un texte qui relatif à des faits qui ont eu lieu au XIIIe siècle, mais qui est peut-être rédigé au XVe, la chronique du roi Hamdet Seyon, qui dit que les esclaves doivent eux aussi être marqués de la marque des esclaves sur les épaules et sur la poitrine. C'est la seule mention qu'on ait d'une marque portée aussi sur les esclaves. Et voilà, on en est réduit à des hypothèses, mais cette empreinte sur les corps montre qu'une appartenance raciale, le fait de parler une langue, ne pouvait probablement pas être suffisant pour distinguer qui était chrétien et qui n'était pas chrétien dans le commerce des esclaves. Vous verrez tout à l'heure pourquoi ce détail a une importance. Cet édit du roi Galaudéos, qui donc redouble le corpus du Fétanégaste, a probablement été mis en application, car dans les années 1580, donc c'est-à-dire 30 ans plus tard, un autre roi, un de ses successeurs, le roi Sarsadangal, est obligé d'infléchir sa politique par rapport aux royaumes qui étaient en orange sur ma carte, donc les royaumes païens et fournisseurs d'esclaves, et d'accepter leur christianisation. Alors lisons ce passage de la chronique de ce roi Sarsadangal, fort instructif. Auparavant, le roi Sarsadangal avait été un guerrier qui saisissait les gens avec l'épée et la lance et qui imposait les tributs à ceux qui lui demandaient la paix en suppliant. Un roi inflexible, effectivement, on peut qualifier sa politique parfois de génocidaire. Depuis le commencement de son règne jusqu'à cette époque, il recevait chaque année le tribut des Bocha, de l'Enaria et des autres peuples semblables. Il apprit que le père du chef de l'Enaria voulait devenir chrétien, mais que les fonctionnaires chargés des finances du royaume chrétien, ne lui avaient pas donné leur agrément parce qu'ils avaient été, retenus par des soucis matériels, par amour de l'argent. Ils avaient été pénétrés par une inquiétude mauvaise qui disait « S'il devient chrétien, ce roi païen, qui nous enrichira ? Le tribut royal ira en diminuant car il s'enorgueillira. Devenu chrétien, il réfléchira. » Et donc il se dira « Tel doit être le tribut du roi, c'est-à-dire moindre que ce qu'on lui impose quand on lui, fait une razzia. Il nous empêchera de nous enrichir. Nous omettrons de rapporter les noms des fonctionnaires qui empêchèrent ces païens de se convertir. » Donc le secrétaire royal, par peut-être pitié pour ses collègues, ne les a pas, n'a pas couché leur nom sur le papier, sur ces mauvais chrétiens qui veulent continuer à faire des esclaves. Donc, en fait, ça montre de façon très claire qu'il y avait un intérêt pour le royaume chrétien de conserver dans sa périphérie des royaumes non chrétiens, donc de les assujettir sans les convertir pour pouvoir prélever, pour pouvoir les rasier et prélever un tribut qui soit, comment dire, qui soit arbitraire et qui soit au bon vouloir du roi et surtout qui comprenne des esclaves. À partir du moment où ces rois veulent se convertir, ils ne pourront plus être rasiés et leur population ne pourra plus être esclavagisée. Alors, donc voilà, j'ai à peu près fini avec les questions de traite. Maintenant, voyons comment au sein de la société éthiopienne chrétienne, donc là on a vraiment accès seulement à l'élite qui a laissé quelques sources, quels sont le statut des esclaves, ou plutôt en fait le statut des maîtres et des maîtresses des esclaves. Ça fait partie en fait de d'un statut social valorisé de posséder des esclaves. On a deux textes du XVIe siècle qui sont autobiographiques, notamment un texte assez extraordinaire dans tous les sens du terme d'un noble qui s'appelle Sémon, qui est le fils du premier ministre de ce roi qui avait tenté d'outrepasser le contrôle des musulmans sur les ports de la mer Rouge. Et donc ce jeune homme, fils de premier ministre, se paye le luxe d'écrire sa vie et dans un livre qu'il appelle le livre de la gratitude, qu'il dédie à la Vierge Marie, dans lequel il remercie la Vierge Marie de lui accorder de vivre dans l'opulence. Et voilà la façon dont il décrit cette opulence. Il dit « Je possède des objets en or, en argent et des pierres précieuses. J'exploite des mines de cuivre et de fer. Il y a des gens qui, pour moi, collectent du bois, du feu, font du feu et collectent et vont puiser de l'eau. Les terres que j'ai reçues en héritage me fournissent de quoi assurer la subsistance de ma maison, de ma famille, de mes domestiques et de mes esclaves, mâles et femelles, hommes et femmes. Donc, la possession des esclaves entre dans cette représentation de lui-même. Ce qui est intéressant, c'est que on a des miracles de la Vierge. Donc le miracle est une forme littéraire en Éthiopie. L'accès des Éthiopiens à l'écriture est très formalisé et leur laisse en fait peu de biais pour réussir à exprimer des choses qui leur soient personnelles ou en tout cas qui reflètent leur condition de vie. Le miracle de Marie est une forme suffisamment plastique pour que, à travers cette forme très répétitive du miracle marial, on puisse avoir accès à des faits sociaux. On a plusieurs miracles qui mettent en scène un maître ou quelqu'un qui possède des esclaves et qui va prier, ces esclaves évidemment sont fugitifs, et qui va prier l'intercession de la Vierge ou d'un saint pour récupérer son bien, et le bien, le saint ou la vierge, lui accorde le retour de ses biens. On a même le cas le plus, comment dire, le plus cynique de notre point de vue, c'est le cas d'un homme qui va acheter très peu cher un esclave sur le marché, à Damoth même, et qui va le revendre sur cette plaque tournante que j'ai indiquée sur ma carte, et qui compte faire un profit substantiel de cette revente. Quand il arrive sur le grand marché aux esclaves, son esclave profite, enfin, son captif profite de la foule pour s'enfuir. Il est tout penaud puisqu'il a perdu son bien, et il va faire une petite offrande à Marie pour récupérer son esclave, et son esclave revient immédiatement sermonné par la Vierge Marie. Alors, comment devient-on esclave ? Alors, je n'ai pas vraiment de réponse à cette question. On peut passer du statut de captif, c'est-à-dire avoir été capturé lors d'une razzia, avoir été capturé par les armes, à la vente sur un marché et devenir esclave. Il est très probable qu'on puisse devenir esclave pour une dette ou pour un impôt impayé. Mais là, je pense qu'il faudrait vraiment faire une relecture systématique des sources avec cette grille d'analyse qui, finalement, en fait, n'a jamais vraiment été faite pour trouver, pour accumuler suffisamment de données qui pourraient, à terme, faire preuve. Je pense... Alors là, j'en suis... Là, on quitte les études qui ont été faites par des prédécesseurs et sur lesquelles je peux me baser de façon assez certaine pour arriver sur des choses beaucoup plus hypothétiques sur lesquelles je travaillerai dans le futur. Mais pour avoir lu beaucoup de documentation administrative dans lesquelles il y a des sanctions, donc ces sanctions sont souvent des excommunications, mais ont parfois des clauses un tout petit peu plus précises, on trouve souvent il sera condamné à puiser de l'eau et à couper du bois. Or, en relisant les sources pour cette présentation, je me suis rendu compte qu'il y a une forme de litote qui désigne l'esclavage avec ces mêmes mots. Il puise, par exemple, les enfants de cette peuplade ont été rasiés et maintenant ils puisent de l'eau et ils coupent du bois pour le roi. Et donc je pense que c'est une façon soit littéraire, soit même peut-être juridique de désigner le statut de travail servile, puiser de l'eau et couper du bois. Donc, c'est possible d'être condamné à l'esclavage, probablement. Ensuite, les frontières du travail servile et du travail contraint sont une piste de travail, en tout cas, que je privilégierais, serait que le travail servile est un statut individuel, tandis que le travail contraint est probablement quelque chose qui relève plus d'un statut collectif. Ce qui me fait... pencher vers cette hypothèse, c'est que dans les textes dans lesquels on réussit à comprendre quels sont les impôts qui étaient imposés sur des terres pour le service du roi, on a des territoires, au sens politique du terme, qui doivent un certain nombre de choses au roi quand il vient dans leur région. C'est très souvent dénombré en ressources naturelles, en céréales, huile, beurre, bois, diverses choses. Mais il y a aussi du travail contraint, qui n'est jamais précisé. Mais voilà, il y a un travail contraint qui est dû par des territoires au roi. Et donc on imagine que ce sont aux communautés de décider sur qui elles font peser ce travail contraint, de façon contextuelle en fonction des besoins exprimés par le camp royal. J'en suis vraiment... on dispose de si peu de sources et elles sont si peu explicites qu'on en est quand même réduit à formuler chaque idée, chaque piste de travail sous forme d'hypothèse. Alors, qu'est-ce que nous disent les termes utilisés pour désigner les captifs, les esclaves et les travailleurs? Donc, il y a vraiment un mot qui désigne le captif, tawo, et donc qui montre qu'il y a une différence très nette et juridique, très certainement, entre le captif et l'esclave. Ensuite, il y a en caisse classique et dans des sources ayant un certain, comment dire, un certain niveau de langue, de façon très nette, des esclaves masculins et des esclaves féminins. Donc il y a une différenciation genrée explicite dans, dans la lexicographie, mais voilà, on ne sait pas à quoi s'applique cette différenciation genrée, même si dans certaines sources, il apparaît que les femmes, par exemple les abbesses de monastères, possèdent des esclaves femmes et les hommes possèdent des esclaves masculins. On a aussi des esclaves qui sont dénommés selon leur origine, par le terme baria, terme difficile à utiliser aujourd'hui, puisque à partir au moins du XIXe siècle, baria devient synonyme d'esclave et a une très forte connotation raciale. Mais là, je reprends pour tout ce travail les analyses de ma collègue Marie-Laure Dera. Et je rejoins sa prudence. Il est fort probable que sur des périodes plus anciennes, 14e, 15e, même 16e, on ne puisse pas conclure que baria a une origine raciale, mais une origine géographique. On a des termes utilisés pour la domesticité, mais il faudrait en fait vraiment les explorer plus avant. Et alors, on a un terme qui apparaît dans les sources au XVIIIe siècle, mais qui apparaît de façon très ponctuelle dans des sources plus anciennes. C'est le terme zega, qui a été amplement analysé dans la thèse de ce collègue éthiopien Abtamou Mengiste. Les zegas sont des paysans pauvres, des paysans appauvris, des paysans qui, au XVIIIe siècle, à un moment de transformation radicale de la propriété de la terre, se voient dépossédés de leur terre au profit d'une aristocratie locale et des institutions religieuses. Et non seulement ils perdent l'accès à leur terre, mais ils peuvent être vendus ou échangés en même temps que ces terres. Donc, d'une certaine façon, ils sont privés de liberté puisqu'ils peuvent être échangés comme des biens meubles. L'ironie de ce mot, c'est qu'en 1974, une révolution a chassé l'empereur Haïlé Sélassié, une révolution d'obédience communiste, et très rapidement, le mot zega a été transformé pour devenir synonyme de citoyen. Et aujourd'hui, en amharique, zega veut dire citoyen, zeganet veut dire citoyenneté. On sait qu'une des principales raisons de cette révolution et une des premières réformes du régime du Dergue dans les années 70 fut de redonner la propriété de la terre aux paysans. Donc un mot qui a une histoire particulièrement forte de sens. Enfin, le dernier terme est agaz, avec agazi, terme très ancien, qui signifie les hommes libres, et qui va devenir le terme par lequel s'auto-dénomment les chrétiens d'Éthiopie. Leur langue ancienne, c'est le gez, qui a la même racine que ce terme agaz. Et le fait d'affranchir un esclave utilise cette même racine. Donc, quels sont les droits des maîtres sur les esclaves, ou en tout cas ceux qui sont privés de liberté? Les droits, et même la première chose qu'ils s'arrogent sur leurs esclaves, c'est de les circoncire et de les baptiser. Donc un droit sur leur corps et sur leur identité. On a un texte d'un jésuite, Pero Paez, qui a vécu longuement en Éthiopie au début du XVIIe siècle, et qui explique que dans une maisonnée, si un esclave qui n'a pas encore été circoncis, sans même parler d'être baptisé, prépare à manger, cette nourriture est considérée comme immonde et doit être bénie par un prêtre pour pouvoir être mangée par les maîtres chrétiens et ne plus être considérée comme impure. Donc, les esclaves doivent intégrer le christianisme pour pouvoir vivre et servir au sein d'une maison chrétienne. les maîtres et les maîtresses ont droit de vie et de mort. Donc là, il y a plusieurs textes qui nous montrent ça de façon évidente, notamment la géographie d'une sainte qui, donc une sainte femme, énervée par son esclave, lui lance quelque chose au visage, elle la tue, donc par simple impatience. Et donc elle est perclue de remords. Et le texte semble dire qu'elle n'est pas tant perclue de remords d'avoir tué une esclave, mais d'avoir tué et d'être elle-même devenue une meurtrière. Donc là, il y a quelque chose d'assez sensible sur le fait que ce n'est pas tant la mort de l'esclave, mais le péché de la sainte qui pose problème dans la géographie. Les maîtres peuvent évidemment céder leurs biens, leurs esclaves, ce sont des biens. Pardon, par vente, par troc, et ils peuvent aussi les affranchir. Donc là, je vais donner un dernier exemple, qui est donc tous ces exemples viennent d'un article dont vous aurez la référence à la fin de ma présentation, donc cet article de Marie-Laure Derat. Toujours dans une hagiographie, un saint affranchit son esclave, donc la religion chrétienne recommande d'affranchir les esclaves, en fait impose d'affranchir un esclave s'il est né chrétien, puisque c'est illégal de réduire en esclavage quelqu'un qui est né chrétien. Mais elle recommande d'affranchir par... ça fait partie de ce qui peut apporter le salut. Donc un saint affranchit son esclave, mais cet esclave, après son affranchissement, reste auprès de son ancien maître. Soit, on ne sait pas pourquoi, mais on imagine qu'il n'avait peut-être pas le choix et il ne pouvait peut-être pas mener une vie d'homme libre loin de son maître. Petit à petit, cet ancien esclave, cet affranchi, va accumuler des biens, des vêtements et du bétail, essentiellement. À tel point que l'entourage du saint, la communauté, va dire bon, là quand même, ça paraît pas. Enfin voilà, nous n'acceptons pas que cet esclave affranchi ait accumulé tant de richesses. Et il demande au saint de lui retirer ses richesses. Ce que le saint fait, en fait, il prive l'affranchi de toutes ses richesses. Il lui demande de les redonner. Et le calme revient dans la communauté qui n'avait pas. Supporter cet enrichissement d'un ancien esclave. Donc on se rend compte quand même que l'affranchissement est possible, mais peut-être pas une ascension sociale trop importante. Voilà, donc ça, ce sont les articles sur lesquels je me suis appuyée et qui m'ont permis de refaire un point. Donc il y a cet article de Marie-Laure Derat, paru en 2013 dans un ouvrage collectif publié entre autres avec Henri Médard, traité esclavage en Afrique orientale et dans l'océan Indien. Ensuite, 2017, tout récemment, l'article de Aptamou Mengistey et cette analyse de Lady du roi Galaudéos dans lequel il fait un point assez précis sur la juridiction. Et je remercie Giulia Bonacci et Alexander Meckelbourg qui m'ont donné accès à l'introduction de le dossier qu'ils coordonnent, qui sera consacré à l'esclavage en Éthiopie et qui paraîtra sous peu dans Northeast African Studies, dans lequel il y aura un article de Aïda Bouanga qui a fait sa thèse sur le Damot et donc qui a travaillé sur cette question de l'esclavage, mais aussi du rapport du rapport de suggestion et des impôts qui pouvaient être prélevés par les chrétiens sur les royaumes périphériques et notamment le Damot. Vous voyez, là, en citant Marie-Laure Derat, Aptamou Mengistey, Giulia Bonacci, Alexander Meckelbourg, qui a fait une thèse en anthropologie sur les royaumes à la frontière entre le Soudan, le Sud-Soudan aujourd'hui, et l'Éthiopie, et donc qui étaient des populations qui ont été rasiées de façon constante sur la période contemporaine. Et Aïda Bouanga, j'ai à peu près crédité les personnes qui travaillent aujourd'hui sur cette question, voilà, pour vous dire le peu de choses sur lesquelles on s'appuie. Et pour terminer par une note un peu revancharde, une peinture contemporaine enfin, des années 70 qui montre les guerres que Ménélik a menées contre les populations du Sud, puisque Ménélik a quasiment triplé la surface de l'Éthiopie chrétienne, notamment en pratiquant l'esclavage sur les populations du Sud à grande échelle. Bon, mais là, c'est hors de ma période. Et donc, on voit sur cette peinture une femme, notamment avec un enfant sur le dos, qui plante son herminette dans la tête d'un colon chrétien. Je trouve ça assez savoureux, même si voilà, bon, les populations ont payé un lourd, les populations du Sud ont payé un lourd tribut à l'époque de Ménélik, mais cela n'a pas été sans se défendre, et donc un petit tribut à la janséité des populations esclavagisées. Je vous remercie.
Merci Anaïs. Juste une question, ce sont des populations chrétiennes qui sont représentées, et puis on laisse la parole à Henri Médarge. Tout en haut à gauche, il y a un personnage à cheval.
Ouais, il a une crinière en fait sur la tête, qui est vraiment le symbole du guerrier chrétien.
D'accord, ok. Henri Médard.
Moi, ce qui m'intéresse, alors c'est pas scientifique, c'est comment l'esclavage rend les sociétés folles. Donc, si vous voulez, ce qui m'intéresse, c'est les paradoxes. Alors, dans ce cas-là, je vais m'intéresser à la question du genre. Mais le genre, on l'a déjà mentionné tout à l'heure, c'est un élément clé dans l'esclavage. On ne peut pas aborder l'esclavage sans aborder le genre. Vous savez, bon, pour prendre un exemple très simple, la majorité des sociétés divisent le travail en fonction du genre. Et évidemment, l'esclavage va s'insérer dans cette division du travail. Ou, donc, il peut s'insérer... ou alors, du coup, on va donner des fonctions aux esclaves hommes, on va leur donner des fonctions d'hommes, et aux esclaves femmes, des fonctions de femmes. Par exemple, on va faire des soldats, des hommes esclaves, et des cuisinières ou des lavandières, des femmes esclaves. Ou alors, l'esclavage va faire le contraire, c'est-à-dire qu'il va nier le genre aux hommes. C'est-à-dire qu'on va donner des hommes aux femmes, on va donner aux hommes, par exemple, une tâche féminine, par exemple, cultiver. Le plus souvent, l'agriculture, c'est une tâche féminine. Si on fait cultiver des hommes, on ajoute l'humiliation à un homme de faire une tâche féminine. On nie sa masculinité. Donc, c'est quelque chose qui est toujours important quand on s'intéresse à l'esclavage. Je pense que les sociétés africaines sont peut-être celles qui vont pousser cette logique du genre le plus loin. C'est-à-dire qu'on a des sociétés, là on a vu une société qui, en tout cas dans la période qu'analyse Anaïs, se focalise sur la religion. Il y a les chrétiens qu'on peut asservir et les autres qu'il ne faut pas asservir. Très souvent, on va jouer sur la race. Et en Éthiopie, un peu plus tard, on jouera sur la race. Vous avez bien vu comment c'était... on voyait très bien les noirs et les blancs hein, sur les images plus récentes. Donc, le plus souvent, on joue sur ces logiques-là pour exclure et contrôler les esclaves. Mais dans un pays africain où il n'y a pas de religion universaliste, alors, ça ne marche pas pour les régions musulmanes, hein, où la différence de race, il y en a sans doute plus que ce qu'on imagine, parce que de toute façon, la race, c'est imaginaire, mais enfin, ce n'est pas l'aspect qui saute le plus aux yeux quand on essaye de distinguer les gens. On est obligé de jouer sur d'autres choses pour exclure, et le genre est un de ces éléments qu'on peut instrumentaliser pour exclure et dominer. Alors, je vais aborder un royaume spécifique, qui est un royaume de l'Afrique des Grands Lacs. Vous avez une carte au-dessus de vous. C'est donc la partie près du lac Victoria, il y a écrit Bouganda dessus, en grisé. C'est un royaume qui est fortement hiérarchisé. Donc, ce n'est pas une société sans État, c'est une société comme l'Éthiopie, avec un royaume très puissant, très centralisé, très territorialisé. Il s'agit d'une société qui est patrilinéaire, donc l'héritage passe par les hommes, l'identité passe par les hommes. C'est un endroit où l'esclavage va connaître un essor extrêmement important à partir de la fin du XVIIIe siècle. Ça ne veut pas dire que ça n'existait pas avant, mais à partir de la fin du XVIIIe siècle, il y a un essor de l'esclavage qui est considérable. Et cet essor de l'esclavage va avoir un impact sur comment on voit les genres. Alors, oui, bon, c'est pas la peine de dire ça. On a le royaume le plus puissant à la fin du XIXe siècle, qui est le royaume du Bouganda. C'est une région qui est enclavée, comme vous pouvez le voir, enfin, au bord d'un grand lac, Mais par rapport aux grands flux commerciaux mondiaux qui sont sur les voies, sur les océans, il est enclavé. Il va rentrer en contact avec le reste du monde au cours du 19e siècle. Pour caricaturer, on va dire que la traite qui vient du Soudan, de l'Égypte, du Soudan, qui remonte le Nil, va rencontrer la traite qui vient de l'océan Indien dans cette région vers 1860. Bon, je simplifie à l'extrême. Mais on ne va pas insister sur cet aspect de traite. Si vous avez des questions, je pourrais y répondre, il n'y a aucun problème. Mais ce n'est pas là-dessus que je veux insister. Je veux insister sur ce sur quoi cette greffe se traite. Cette traite se greffe. Voilà. Je commence à être fatigué, excusez-moi. Il faut bien voir que très peu d'esclaves atteignent la côte. Même quand ils rentrent dans les réseaux commerciaux des Soudanais ou des Zanzibarites, les esclaves vont rester à l'intérieur de l'Afrique. Donc ils satisfont une demande régionale. Et en fait, le Bouganda est à la fois importateur et exportateur d'esclaves. Les sources, je ne vais pas être aussi fidèle aux sources que ma collègue, je vais essayer de passer plus vite. Ce sont des sources, soit des sources missionnaires, des récits de voyage. Bon, il y a des récits très célèbres, vous avez Stanley, Speke, tous les gens qui cherchaient les sources du Nil. Et vous avez des chroniques qui ont été rédigées en Luganda à la fin du 19e siècle. Et je vais vous aborder la question en trois temps. Donc le premier, je vais vous expliquer comment la société bascule dans l'esclavage. Ensuite, je vais montrer la croissance du nombre d'esclaves femmes dans la société. Et pour finir, je vais essayer d'étudier comment on va utiliser le genre pour naturaliser, pour justifier, pour rendre normal le fait de rendre esclaves d'autres êtres humains. Alors le basculement, il se déroule au XVIIIe siècle. C'est le moment où cette région va trouver la forme que les Européens vont découvrir, entre guillemets, à la fin du 19e. C'est une période qui est associée aux troubles, aux guerres civiles, aux violences. C'est le moment où vont émerger des puissances très militarisées, qui sont donc le Bouganda dont je vous parlais, mais peut-être vous avez entendu parler du Rwanda, qui est un royaume d'à peu près la même taille, dans moins de mesure du Burundi, et d'un certain nombre d'autres royaumes, qui sont des royaumes beaucoup plus militarisés, probablement, que ce qu'il y avait avant. Donc des royaumes qui sont organisés pour la guerre. Pour le Bouganda, ces dynamiques répondent aux troubles. Il y a des guerres civiles, des guerres extérieures. Alors, ces troubles ne répondent pas à l'essor de la traite. Ce n'est pas lié à l'essor de la traite atlantique, ni lié à l'essor de la traite de l'océan Indien. La traite de l'océan Indien va arriver plus tard. Elle se développe surtout après 1770 sur la côte et arrive début 19e, fin 18e dans ces régions. Mais ce n'est pas ça le moteur. La dynamique est d'abord interne. Donc, on a une société qui va se militariser avec donc tout ce que ça entend comme hiérarchie, discipline, violence. Toute la société s'organise autour de la guerre. Donc, au 19e, c'est un État qui est organisé pour et par la guerre et le service du roi. C'est ça l'objectif de ce royaume, qui est un royaume grand à l'échelle africaine. Et au cours du 18e, va se mettre en place une espèce d'économie de guerre. C'est-à-dire qu'on va systématiser la culture du bananier, qui est une culture qui demande moins de travail que, par exemple, des céréales. Et on va mobiliser les femmes pour cultiver le bananier. Alors je simplifie, on mange d'autres choses que de la banane, hein. On fait une purée, mais c'est pas que ça. Mais ça devient l'équivalent du pain, si vous voulez, dans nos sociétés européennes à l'époque moderne. Et les hommes vont être libérés des tâches agricoles par ce basculement à la quasi-monoculture de la banane, pour pouvoir, dans un premier temps, défendre justement les bananeries. Les bananeries, c'est quelque chose de très précieux, c'est des cultures pérennes qui se reproduisent dans le temps. Et ensuite, pour le service du roi et le service militaire, et pour travailler à d'autres activités, pour servir les chefs aussi. À ce moment-là, fin 18e, on va connaître aussi une transformation importante, c'est-à-dire l'essor de la relation de patronage. C'est-à-dire que les hommes, dans un contexte d'insécurité, enfin tout le monde, dans un contexte d'insécurité, va devoir trouver des protecteurs, des gens capables de les défendre. Or, il semble qu'à ce moment-là, les liens de famille, les clans, les lignages ne sont plus capables d'assurer ce service. Donc on va trouver des gens puissants qui sont capables de vous protéger. Et ces liens vont complètement chambouler les relations sociales. Elle va rentrer en concurrence avec la parenté. C'est-à-dire qu'au 19e siècle, on ne va plus s'adresser à son père ou à sa famille pour trouver une épouse, on va s'adresser à son patron, à son protecteur. Pour avoir accès au foncier, on ne va pas s'adresser à sa famille, on va s'adresser à son protecteur. Donc d'une certaine façon, on a un changement considérable dans l'organisation de la société. Et la distribution des vergers de bananiers et des femmes est au cœur du nouveau système. Vous comprenez comment, dans un contexte d'insécurité, la tenure foncière est fragilisée. Et que pour les chefs de guerre, il ne suffit pas de s'emparer d'une bananerie, il faut des gens qui travaillent dessus. Il faut des travailleurs. La terre en elle-même, si on ne la travaille pas, n'a aucune valeur. Donc, on a une société en guerre où la production est complètement désorganisée. Les paysans s'enfuient, les familles sont dispersées, éclatées. Et en même temps, le contexte de guerre civile, d'insécurité, favorise la capture des gens libres. On va asservir les femmes. On capture des femmes dans ce contexte, ce qui est souvent le cas. Et du coup, on va capturer beaucoup de femmes et on va les distribuer de la même façon qu'on distribue les femmes libres. La façon dont on distribue les femmes volées va être similaire à la façon, va s'insérer dans la continuité de la façon dont on distribue les femmes libres. C'est-à-dire que elles vont permettre de recréer des unités de production familiale et de relancer la production. On va, en gros, si vous voulez, un chef va vouloir récompenser un guerrier en lui donnant une captive et un verger que la captive peut cultiver. En faisant ça, il a à la fois un guerrier qui est fidélisé et il a aussi il est fidélisé doublement puisqu'il a reçu de la terre et une épouse. Et en plus, on relance la machine économique, on peut lever des impôts. On peut nourrir la population. Alors, ce système, naturellement, se met pas en place du jour au lendemain. C'est quelque chose de progressif. Mais au XIXe siècle, il est établi. Et on comprend bien que pour reconstruire le royaume et pour le retransformer d'une machine défensive en une machine offensive, il a fallu voler énormément de femmes, asservir énormément de femmes pour que la machine se remette en marche. Et ça coïncide non seulement à un passage à l'agriculture du bananier, mais aussi à la féminisation du travail agricole. Le travail agricole était probablement partagé entre les hommes et les femmes auparavant, plutôt les femmes que les hommes, mais là, tout d'un coup, c'est quasiment exclusivement les femmes qui travaillent dans l'agriculture. Et la société bascule dans une société radicalement esclavagiste. Alors, cet esclavage, en réalité, il est quasiment exclusivement féminin. À la guerre, on capture essentiellement les femmes et les enfants. Les hommes, normalement, on ne les capture pas. Le premier bénéficiaire, c'est le roi. Le roi capte la majorité des richesses, pas toutes les richesses, mais il est le premier à se servir. Ensuite, donc, il prend les femmes qui sont capturées et il en redistribue une partie aux chefs et aux paysans. Là où les sources sont compliquées, je n'ai pas le temps de rentrer trop dans les détails des sources, mais le seul endroit où on voit vraiment l'évolution, ça concerne les servantes du roi. Et si on regarde le nombre de servantes qu'ont les rois par règne, on se rend compte que, par exemple, les rois au XVIIIe siècle, on leur attribue environ quelques centaines de servantes, 400 au maximum. Et dès le début du XIXe siècle, il y a une rupture. C'est-à-dire que le premier roi, un roi qui règne entre 1800 et 1812, je vous épargne son nom, lui, tout d'un coup, il passe à 7000 servantes. Donc là, on est passé à quelques centaines, à 7000, ce qui est déjà considérable. Et peu de temps après, le roi qui s'appelle Sunna, qui règne entre environ, c'est pas des dates très précises, entre environ 1830 et 1856, lui, il en a 18 000. Donc, on a vraiment une évolution très, très, très forte. Et cette logique d'accumulation est brisée par la conquête coloniale vers 1890-1900. Bon, la croissance est donc indéniable. Maintenant, toutes ces servantes ne sont pas des esclaves. Parmi ces servantes, il y a des femmes libres, il y a des femmes condamnées, il y a beaucoup de femmes qui viennent de milieux très différents. Mais quelle que soit leur origine, elles sont soumises au même régime disciplinaire brutal. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas une possibilité d'ascension sociale. Potentiellement, chacune de ces femmes, même si elle a été capturée très loin du royaume, elle peut donner un fils au roi, et même un roi, et devenir la reine-mère, qui est le second personnage du royaume. Donc potentiellement, il y a une possibilité d'ascension. L'esclavage n'est pas transmissible aux enfants. Mais cette difficulté qu'on a dans les sources de distinguer femmes libres de femmes serviles, ce n'est pas un hasard. On voit bien qu'elles sont traitées de la même façon, ces servantes. Dans les conditions de vie, elles ne diffèrent pas. C'est qu'en fait, l'afflux de femmes dans la société, de femmes non libres dans la société, va abaisser globalement les femmes. Les femmes libres se distinguent encore des femmes esclaves, mais le statut des femmes libres est devenu bien inférieur à ce qu'il était auparavant. Donc on a une détérioration du statut des femmes, qu'elles soient libres ou non libres. Une détérioration très importante. Ce n'est pas un hasard si au moment où les femmes deviennent très très nombreuses, deviennent très nombreuses, c'est le moment où on va avoir des édits royaux qui rendent le contrôle des hommes sur les femmes libres beaucoup plus serré. Par exemple, les femmes libres n'ont plus le droit de se déplacer sans la permission de leur mari à ce moment-là. Donc une femme libre, et c'est ce qui distingue libre et esclave, c'est la liberté de circuler. Alors, l'accaparement des femmes par le roi et les grands devrait créer une tension démographique. Les indications qu'on a, c'est que donc le roi, vous avez vu, il a d'abord des milliers, puis des dizaines de milliers de servantes. Il y a aussi des épouses, mais elles sont moins nombreuses. Les grands, ils ont des harems où il y a quelques centaines, souvent quelques dizaines, quelques centaines d'épouses. Mais les paysans, eux, ont souvent deux, trois épouses. Donc ça pose un problème. Comme il y a autant d'hommes que de femmes, qu'est-ce qui se passe? On a un autre texte qui nous dit que, c'est un texte missionnaire, que dans la capitale, le ratio d'hommes-femmes est de 1 pour 3,5. C'est énorme. Bon, même s'il y a une exagération, on comprend bien qu'il y a trop de femmes par rapport au nombre d'hommes. Si on transpose un peu cette proportion, on se rend compte qu'on a à peu près la même population servile donc dans la capitale du Bouganda qu'on a à Kano au Nigeria ou à Khartoum ou à Zanzibar. 40-60% de la population probablement d'origine servile. Donc on a une importation. La seule explication évidemment, c'est qu'on a importé les femmes de l'extérieur. On peut pas trouver d'autres explications pour un ratio aussi grand. Et on a vraiment une multiplication du nombre d'esclaves. Sur une génération, on peut, si on se base juste sur le roi, on a une multiplication par 10 pour une génération, par 20 sur un demi-siècle. C'est une augmentation du nombre de femmes et d'esclaves dans la société qui est monstrueuse. Donc, une société ne peut pas ne pas se transformer devant ce genre de mutation. Il y a automatiquement une reconfiguration de la société. Et une de ces reconfigurations est évidente, c'est que l'époux va devenir synonyme du maître. D'autre part, la société va devoir trouver un moyen de gérer le nombre de non-libres qu'elle a volé. Et elle va le faire donc, en jouant sur les institutions du mariage et en jouant sur les catégories de genre. Le mariage est donc détourné pour accommoder cet afflux de femmes non libres. Dans le harem, enfin je parle de harem, c'est un mot arabe, mais bon, c'est plus facile, on va avoir une hiérarchisation croissante et les femmes vont être embrigadées pour aller travailler dans les plantations. Alors, pour les femmes du roi, c'est dans d'énormes plantations qui n'ont rien à envier avec les plantations de Zanzibar ou des États-Unis. Pour les femmes de paysans, c'est dans des plus petites tenures. Donc, les femmes esclaves vont être mises au travail et produire un énorme surplus agricole. Néanmoins, le travail dans la bananeraie, c'est quelque chose qui est intimement féminin. La féminité ne peut pas se dire. La mère du roi, qui est donc certainement, enfin, qui pourrait être d'origine servile, mais bon, c'est quand même la femme la plus du rang le plus élevé du royaume, continue à symboliquement toujours cultiver une bananeraie. Une femme, pour être une femme, doit cultiver dans sa bananeraie, même si elle a des esclaves pour l'aider. Mais ça, c'est intéressant parce que donc c'est pas la culture n'est pas l'apanage des esclaves, c'est l'apanage des femmes. Mais que ce soit encore une fois brouillé, que la limite entre esclaves et femmes libres est brouillée, là encore, c'est pas innocent. C'est qu'en fait, on est en train de brouiller la limite entre les femmes libres et les femmes esclaves. Et pourquoi ? C'est parce que justement, la domination, c'est quelque chose de compliqué. Et il faut un instrument idéologique pour contraindre les gens. Et dans ce cas-là, on va jouer sur le genre. On va dire que les femmes sont les esclaves et les hommes sont les libres. Le genre, alors là c'est d'une banalité affligeante, est très très souvent relatif au pouvoir. Donc la masculinité, c'est le pouvoir, la féminité, c'est la suggestion. Bon, c'est d'une banalité. Mais là, on va beaucoup plus loin. On va quitter un peu les esclaves. Par rapport au roi, tous les hommes sont des femmes. Un homme, quand il s'adresse, quand il va danser à la cour, danse comme une femme. Quand il rentre chez lui, il danse comme un homme. Mais devant le roi, il va danser comme une femme. Par rapport aux princes et aux princesses, tous les roturiers sont des femmes. En revanche, quand ils quittent le palais, ils redeviennent des hommes. C'est en fonction du contexte. Donc, un chef est un homme chez lui, mais devant le roi, c'est une femme. Mais c'est aussi, par extension, comme on a étendu de plus en plus, assimilé le statut de femme à celui d'esclave, et là, on voit l'évolution au cours du XIXe siècle, c'est de plus en plus aussi l'esclave du roi. Le chef devient la femme et l'esclave du roi. Les esclaves sont, par définition, des femmes, puisqu'ils sont au bas de l'échelle. Donc vous avez les esclaves au bas de l'échelle qui sont des femmes, et le roi qui est l'homme par excellence. Et du coup, ils se comportent avec les hommes comme avec les femmes. Donc, le roi va avoir des pratiques homosexuelles avec ses pages, mais éventuellement avec ses compagnons ou ses favoris. Mais c'est une démonstration de la masculinité du pouvoir. Il montre la féminité des sujets par rapport à sa virilité à lui. Et il n'indique pas du tout que le roi désire des garçons. Il indique juste que ces garçons sont effectivement des femmes. C'est une relation, c'est des pratiques homosexuelles, mais qui sont comprises comme étant hétérosexuelles. Le roi est ce qu'on appelle alors l'omufumbo. L'omufumbo, c'est le mari. C'est l'époux de tous ses sujets, hommes ou femmes. Et en tant qu'époux, il est conforté dans son modèle despotique. C'est un roi qui est relativement, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais c'est un roi qui a un pouvoir particulièrement despotique. Alors, ce qui est intéressant, c'est que le roi est également le père des Baganda. Il est beaucoup de choses, le roi, il n'est pas que ça. Mais dans la plupart des sociétés, on va insister sur l'aspect patriarcal. Mais dans cette société-là, le pouvoir est plus associé au mari qu'au père. Ça ne veut pas dire que le père est quelqu'un qui n'a pas d'autorité. Il y a une hiérarchie très forte. Mais le pouvoir est plus associé au mari qu'au père. Donc, cette figure de l'époux qui est la figure de l'autorité affirme, c'est une affirmation idéologique, C'est-à-dire, c'est la soumission des hommes par rapport au roi, des femmes par rapport à leur mari, et des esclaves par rapport à leur maître. J'aurais pu aussi ajouter des aspects religieux, mais ça aurait été plus compliqué. Donc, si vous voulez, c'est l'ordre naturel. Les esclaves doivent obéir parce que c'est la nature, parce que les femmes sont soumises aux hommes et eux sont comme les femmes. Alors inversement, qu'est-ce qu'on fait quand il y a une femme qui a du pouvoir ? Ce qui arrive naturellement. Et même au XVIIIe siècle, on a des femmes extrêmement puissantes. Au XIXe, il y en a moins. Mais il y a quand même des femmes qui ont beaucoup de pouvoir. Ben, si vous voulez, c'est impossible, c'est subversif. Une femme ne peut pas avoir du pouvoir. Mais dans la réalité, elle en a. Donc ben, c'est très simple. Ben, c'est pas une femme, c'est un homme. Donc, à une princesse, on dit monsieur. Et du coup, la contradiction est réglée. Elle reste une femme par rapport à son frère. Une princesse, ça, c'est une femme par rapport à son frère, à ses frères. Donc, pour conclure, un homme esclave est une femme. Mais c'est quand même embarrassant, parce que c'est difficile à distinguer. Surtout quand il devient un peu plus vieux. Donc le plus simple, c'est de la franchir quand il devient adulte. Donc un garçon, quand il atteint l'âge adulte, bon, on va peut-être traîner un peu, ce ne sera peut-être pas 16 ans, ce sera peut-être 25 ans, mais en gros, on va avoir tendance à la franchir ou à le traiter comme s'il était un client. Donc les esclaves hommes vont se fondre dans la masse des clients, des chefs. Et aussi, on va éviter de capturer les hommes. D'abord, c'est plus difficile et on va les rançonner ou les tuer. Si on les capture quand même. Inversement, le statut de femme libre se fond de plus en plus dans celui d'esclave. D'où on a une situation où quand un garçon s'échappe de son maître, un garçon esclave s'échappe de son maître, il a de fortes chances de parvenir à se faire passer pour un libre et de devenir libre de facto. Par contre, une femme libre qui fuit son mari a de très fortes chances d'être asservie. Ou même, elle peut fuir avec son amant, et si celui-ci en a marre, il peut la revendre. Donc, c'est une situation. Il y a un paradoxe dans l'évolution. Alors, là, on voit bien l'importance du genre, naturellement. Alors, tout ça, évidemment, j'ai insisté sur l'aspect servile. Ça joue aussi sur la construction de la sacralité du roi, mais je n'ai pas insisté sur cet aspect. Tout ce système va s'effondrer avec la conversion à l'islam, au christianisme et la conquête coloniale. Donc, vers la fin du XIXe siècle, tout ce système idéologique va être remis en cause. Donc c'était cet exemple d'une société où les hommes sont des femmes et les femmes sont des hommes pour pouvoir être cohérent avec l'idéologie de la domination que je voulais vous présenter. Merci de votre attention.
Merci à tous les deux pour ces deux présentations où on voit des seins qui ne ressemblent pas beaucoup à des saints tels qu'on pourrait les attendre, et des hommes et des femmes qui ne sont pas aussi ce qu'on pourrait attendre d'eux, nécessairement. Et je laisse la parole à la salle. Ceux qui ont des questions.